Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. Bernard a posé la question tout à l'heure, est-ce que vous allez bien? Donc je suis content de savoir que vous allez bien. Est-ce que votre voisin va bien? Est-ce que vous êtes sûr? Si jamais, posez-lui la question. Alors nous allons bien. Il est évident que des fois on dit que ça va bien. Vous avez remarqué quand on dit bonjour aux gens, ah salut, tu vas bien? On ne prend même plus le temps de réfléchir si on va bien ou pas, ou si l'autre, voilà. Et des fois, voilà, oui, sauf si vous avez Bernard comme ami qui... Vous lui demandez s'il va bien, il vous dit « je crois que je vais bien ». Voilà, donc lui prend le temps de réfléchir en tout cas. Et des fois, effectivement, on ne va pas bien. Et vous savez, même dans nos églises, on a le droit de ne pas aller bien. On n'est pas obligé de tomber dans des automatismes en se disant « ah oui, si je ne vais pas bien, ça veut dire que peut-être je manque de foi, peut-être que je ne sais quoi » et tous les arguments qu'on peut mettre derrière. Mais des fois, il arrive qu'on ne soit pas bien. Et Dieu reste Dieu, Dieu reste souverain, Dieu continue de nous aimer, Dieu continue d'être avec nous. Mais nous, on n'est quand même pas bien. Et des fois, ça arrive. On vit des tempêtes, on vit des situations compliquées, on endure les vagues, et puis à un moment donné, Dieu décide de se lever et les choses changent. Mais il y a tout un temps où on n'est pas bien. Je vous raconte une petite histoire pour commencer, une petite histoire vraie qu'on a vécue dans notre église à Limoges. Ça date d'il y a quelques années. L'église était pleine, bien remplie en tout cas, et puis difficile de savoir qui est qui. C'était une étape de l'église où il y avait vraiment, on vivait quelque chose de particulier, et il y avait du monde qui arrivait de partout. Après il y a eu le Covid, ça a un peu réglé les choses en tout cas, et puis maintenant Dieu dans sa grâce permet qu'on construise les choses différemment, mais fut un temps, il y avait du monde de partout, on ne savait plus très bien qui était qui, etc., etc. Et puis on vit le temps de louange, comme on a pu vivre là ce matin. Et puis pendant le temps de louange, Dieu décide de parler au travers de la bouche d'un frère. Et le frère parle et donne une parole du genre « Il y a une dame ce matin qui est dans la salle et le Seigneur guérit ton estomac. » Et je dois vous dire que c'est le genre de parole où moi, je me dis humainement parlant, vous allez dire « Qu'est-ce qu'il n'est pas spirituel ce gars ?» Mais je me dis « Bon écoute, on est je ne sais pas combien dans la salle, des gens qui ont des problèmes d'estomac ou qui ont au minimum une gastro, il doit y en avoir beaucoup. » Donc c'est le genre de truc où je me dis « Bon c'est un peu facile de donner ce genre de parole là. » Et voilà, je ne me cache pas, je vous dis qu'à l'époque, mon cœur était dans cette optique-là. Et bon, donc la parole est donnée. Et puis moi, je me dis, bon, ben, est-ce que ça vient vraiment du Seigneur ou est-ce que c'est quelque chose d'émotionnel? Parce que vous savez que des fois, on a des choses à cœur et des fois, c'est juste les émotions, hein, n'est-ce pas? Et Dieu n'a rien dit. En tout cas, là, apparemment, Dieu avait parlé véritablement. Puisque quelques semaines après, une dame que je ne connais pas vient me voir, dame qui est fragile, qui, on voit, a vécu des choses compliquées, que je ne connais pas, et me dit d'une petite voix, « Monsieur le pasteur ». Alors déjà, quand on me dit « Monsieur le pasteur », c'est qu'on ne me connaît pas. Hein. « Monsieur le pasteur, j'aimerais vous voir, bien sûr, il n'y a pas de souci. » Et elle me dit, « Je veux vous voir parce que Dieu m'a parlé et il m'a guéri. » Ah, ça m'intéresse. Donc du coup, je discute avec cette dame, du coup, qui n'a aucun arrière-plan chrétien, un petit peu catho, on va dire, parce que, voilà, la culture, la famille, etc., mais... pas de relation avec Dieu et c'est pas exactement qui est Dieu. Et en fait, elle me raconte qu'il y a quelques semaines, elle s'est trouvée dans l'église et puis malade un peu, peur des gens, peur du monde, peur de tout un tas de trucs et vraiment mal dans sa peau. Elle me dit, je m'étais mis à l'entrée, juste à l'entrée, parce qu'il y avait plein de monde et moi, les gens me font peur, etc. Elle me raconte tout ça. Elle me dit, je suis arrivée, c'était en cours, vous aviez chanté, tout ça. Et elle me dit, à un moment donné, Dieu m'a parlé. Je dis, bon, Dieu vous a parlé. Elle me dit, oui, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il me guérissait à mon estomac. Ok? Je dis, ah, bah, c'est génial. Bon, et je reste. Ouais. Je suis normand, moi, à la base, donc je suis un peu méfiant, vous savez. Je crois que la sœur a dit qu'elle venait de la Manche tout à l'heure, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. Vive la Normandie. Mais moi, je suis de la Haute, moi, je suis de Rouen, je suis pas de la Manche. Voilà. Mais pareil que les Normands, ils sont un peu comme ça, un peu méfiants. Méfie-toi une fois, méfie-toi toujours, en fait. Voilà. Et donc, bon. Elle me dit, voilà, et Dieu m'a parlé et il m'a guéri. Alors je lui dis, bah, c'est génial si Dieu vous a parlé, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il vous a vraiment guéri? Et elle me dit, ben oui, parce qu'en fait, elle me raconte son histoire, donc je ne la connaissais pas. Et elle me dit, j'ai fait pas mal de bêtises dans ma vie, tentatives de suicide, etc. Et notamment une tentative de suicide médicamenteuse qui lui avait bouffé toute la flore intestinale ou je ne sais pas quoi. Ça fait qu'en gros, elle ne pouvait manger que des soupes et des trucs comme ça. Et puis, elle va voir son médecin en lui disant, ben voilà, je suis allé à l'église et Dieu m'a parlé. Et je vous assure qu'elle parle comme ça. Dieu m'a parlé et il m'a guéri. Alors le médecin, il est un peu comme moi au final. Il me dit, bah écoutez, on va faire des examens et puis on verra bien si Dieu vous a guéri. Et le médecin fait des examens et puis effectivement, Dieu l'a guéri. Donc elle peut manger du pain, etc. Et à l'époque où elle me raconte ça, du coup, bah, Dieu est intervenu dans sa vie et Dieu s'est levé. Donc effectivement, on a continué. Maintenant, elle s'est convertie, elle a pris le baptême et elle a vraiment évolué. C'est plus du tout la même. Et puis à un moment donné, dans ma relation que j'ai avec elle, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en fait? Parle-moi un peu de toi, parce que moi je te connais depuis que tu es rentré à l'église et que le Seigneur t'a parlé miraculeusement. Et heureusement que le Seigneur n'est pas moi, n'est-ce pas? Et elle me raconte sa vie. Elle me dit, mais écoute, tout était génial dans ma vie. Tout allait bien. J'avais un petit copain, on s'aimait, on voulait se marier, et puis tout était génial. Et puis la seule chose qui n'allait pas, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle me dit, à un moment donné, on a tout essayé, les fives, les machins, les trucs, tout ça, et rien ne marchait. Et puis elle ne connaissait pas le Seigneur, et puis ils ont décidé d'aller voir un magnétiseur ou un truc du genre, quoi. Et puis ils sont allés, première fois, deuxième fois, et elle me dit, au bout de plusieurs séances, la dame, c'était une dame, me dit, ça y est, j'ai fait quelque chose, et vous allez tomber enceinte. Okay. Elle tombe enceinte. Le bébé va bien, etc. Et à un moment donné, tout va bien, ils sont comblés, ils s'aiment, le bébé va bien, et d'un seul coup, le bébé ne va plus bien. Il fait un malaise, quelque chose comme ça. Et cette sœur, maintenant, cette dame, fait un truc complètement délirant, je passerai les détails pour rester discret, mais qui fait que face à son fils qui commençait à partir, qui avait fait un malaise, elle a une réaction complètement délirante. Ça fait que les pompiers arrivent sur place et disent mais qu'est-ce que vous avez fait en fait, voilà. Et donc l'enfant s'en est sorti, merci Seigneur. Et à partir de ce moment-là, une succession d'événements, etc., qui l'ont fait complètement sombrer. Son couple a complètement explosé. On lui a retiré la garde de l'enfant, etc. Plusieurs tentatives de suicide, jusqu'à ce que le Seigneur se lève et la rencontre. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que nos vies sont comme ça au final. Vous avez remarqué qu'on est très fragile. Et que des fois, il arrive que tout va bien. On est en train de voguer sur un océan calme. Tout va bien, tout est génial. Et voici que la tempête arrive sans qu'on l'ait vu venir. Et nous sommes des fois, comme cette sœur dont je vous parlais, tourmentés. Nous sommes ballottés à droite, à gauche, en se demandant ce qui va arriver. Et à un moment donné, Jésus décide de se lever. Et les choses changent. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin. Peut-être que, pour ça que dans l'introduction, je m'assurais que vous alliez bien. Et ceux qui ont dit, je vais bien, alléluia. Peut-être que vous êtes en train de traverser une tempête jusqu'à ce que Dieu décide de se lever dans vos vies. Il y a une histoire qu'on trouve dans la Bible, dans l'évangile de Marc. Si vous voulez, on va la prendre ensemble. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Et si vous avez l'habitude de lire votre Bible, vous fréquentez l'église depuis longtemps, vous avez compris de quel texte nous allons parler ce matin. C'est l'histoire de Jésus qui se lève et qui calme la tempête à un moment donné. Donc Marc, au chapitre 4, verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Et lui, Jésus, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Et les disciples réveillés lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas !» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Ses disciples sont dans la barque, tout va bien, et la tempête se lève, sans qu'ils ne l'aient vu venir. Et puis, c'est la panique à bord, jusqu'à ce que Jésus se lève. C'est le thème du message de ce matin. Nous sommes tous dans une barque, vous le savez. J'ai pas dit une galère, hein, j'ai dit une barque. Barque familiale, barque de notre couple, de nos relations amicales, barque de notre travail, barque de notre église. Et le cas échéant, de temps en temps, souvent, Une fois, la tempête se lève et vient fracasser notre barque. Des fois, elle fait sombrer l'embarcation. Des fois, elle laisse des traces, elle abîme un peu la coque. Des fois, elle laisse la barque intacte. Et c'est le cas dans nos vies. Sans que nous voyons les choses arriver, patatras, tout va bien. Et puis, bim, je vais chez le médecin. Et puis, avant d'aller chez le médecin, je ne savais pas que j'étais malade. Et je ressors, et ben je sais que je suis malade. Et puis, bim, tout allait bien. Et puis, la tempête commence à souffler sur moi. La barque de l'Église, et c'est bien parce que on parle de l'Église aujourd'hui. Et évidemment, moi j'ai beaucoup discuté avec Bernard, on est amis. Vous connaissez l'adage qui dit on ne choisit pas sa famille, mais du coup on choisit ses amis. Bon, bah, des fois il y a des amis qui s'apposent à nous, ce qu'on n'a pas choisi. Mais en tout cas, évidemment, on échange pas mal et puis on a échangé. Vous savez qu'un pasteur, s'il est en mauvaise santé, il ne vous parlera pas de l'Église, mais s'il est en bonne santé, il vous parlera de l'Église tout le temps. Il vous dira, ah, mon église ci, mon église ça, on a vécu telle chose, et je sais que l'église d'Angers, comme à peu près 200% des églises, à un moment donné, la tempête souffle, il y a des complications, elle est ébranlée, elle est basculée, chahutée, et je sais que l'église d'Angers, à un moment donné, et puis peut-être que ça arrivera encore, mais a été chahutée. Mais en tout cas, l'embarcation est toujours là, et on peut bénir le Seigneur pour ça. Parce qu'à un moment donné, Jésus s'est levé, il a préservé ce qui devait être préservé, il a parlé, il a calmé ce qui devait être calmé, et l'église est toujours là, et la barque de l'église est toujours là, on peut se réjouir. Mais il arrive, le cas échéant, dans des églises, dans des vies, dans des foyers, dans des couples, que la tempête se déchaîne et que malheureusement, l'embarcation ne subsiste pas. Nous sommes tous dans des barques, et j'ai l'impression que la majorité des gens qui sont devant moi sont plus âgés, à part ceux à gauche, voilà. Quoique, bon, hein, y en a qui essaient de se cacher, mais on ne me la fait pas à moi, hein. Mais vous avez l'air tous un peu plus âgés que moi, je suis désolé, hein, mais bon, en même temps, voilà, moi je suis un jeune vieux et un vieux jeune, voilà. On a tous de l'expérience et on sait que la vie, elle est comme ça. À un moment donné, tout va bien dans notre barque et puis on vient être ébranlé, la tempête souffle. Et puis, comme ses disciples, lorsque la tempête souffle, une des premières réactions qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce qui se passe ? J'aimais tellement mon chéri et maintenant il me gonfle. Et la peur vient dans notre cœur. Est-ce que je me suis trompé ? Ça, c'est pour les jeunes couples qui sont prêts à se marier, là. Tout allait bien avec mes enfants. Je les ai bien éduqués. Et puis maintenant, ils commencent à parler comme des wesh-wesh ou je sais pas quoi, là. J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur pour ce qui pourrait arriver. J'avais choisi d'aller dans cette église. Je venais de la Manche. Je me suis installé à Angers. Les gens avaient l'air sympas, le pasteur aussi, bien coiffé. En plus, il n'a pas de cheveux blancs, il a tous ses cheveux. Tout allait bien et puis maintenant, tout paraît compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? La peur m'envahit. Et si j'avais fait un mauvais choix ? Les disciples sont ballottés dans la barque. Et évidemment, comme tout un chacun, la première réaction, c'est la peur. La peur, dit-on, c'est une foi négative. C'est l'inverse de la foi. Vous lirez l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi, qui nous parle de ce qu'est la foi. La foi, c'est l'assurance des choses que je ne vois pas, mais que je crois être juste. C'est la démonstration de celles que je ne vois pas. Et la peur est tout simplement une foi négative. C'est-à-dire que quand j'ai peur, je n'ai plus la possibilité de croire que même Dieu est dans le bateau avec moi. Nous disons souvent le dimanche, en tout cas moi je le dis, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Jésus, tu es là. Et nous savons que Dieu est là lorsque nous nous rassemblons. Nous savons que Dieu est là dans nos vies, dans notre quotidien, lorsque nous nous couchons, lorsque nous nous levons le matin. Nous savons que Dieu est là. Mais lequel d'entre nous n'a jamais eu peur ? Comme ses disciples qui manquent de foi, n'est-ce pas ? Nous avons peur. Et la peur, c'est lorsque je n'ai plus la possibilité. C'est une foi négative de voir ce que Dieu peut faire en moi et d'oublier même que Jésus est dans le bateau avec moi, et que la tempête peut souffler, que les vents peuvent se déchaîner, Dieu demeure toujours avec moi. Alors les disciples ont peur, et notez bien qu'ils réveillent Jésus, et que la première chose que Jésus leur reproche lorsqu'ils se réveillent, c'est pas « vous pouvez pas me laisser tranquille, je dormais tranquille ». C'est « pourquoi est-ce que vous avez eu peur ? Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ? C'est pas le problème que vous me réveillez, mais réveillez-moi avec des bonnes intentions ». Et là, vous me réveillez parce que vous avez peur. C'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi est-ce que j'ai peur dans ma vie ? La tempête souffle et j'ai peur. Pourquoi ? Où est ma foi en Dieu ? Et vous savez, des fois, c'est même plus tordu que ça. Des fois, on a peur, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai vu que le frère rigole, mais c'est pas marrant. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à un moment donné dans ma vie où j'angoissais. Pourquoi t'angoisses, Julien ? J'en sais rien, mais j'angoisse. Et j'avais peur d'avoir peur. Vous voyez, c'est un cercle infernal. Et puis, on a peur d'un truc, et puis après, on commence à avoir peur de tout. La peur, c'est quelque chose qui nous ravage. C'est comme une semence de foi négative et qui nous tient liés. Et nos médias ont bien compris que ça se passait comme ça. Vous avez déjà écouté le journal télévisé ? J'espère qu'il n'y a personne de dépressif ce matin. Sinon, bonne idée, solution, débrancher la télé. N'allez plus écouter les médias. Parce que la fin du monde, c'est demain. Réchauffement climatique. Oh, puis le gouvernement qu'on a en ce moment. Mais c'est terrible. Oh, moi j'ai 43 ans. Je sais que ça fait à peu près 30 ans que c'est terrible tous les ans, quoi. Donc, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Prions pour nos politiciens. Prions pour notre pays. Prions pour le gouvernement. Mais voilà. La peur est là. Une semence qui est là. Et qui nous tient prisonniers. Et le diable le sait. Et il utilise cette foi négative en nous pour nous tenir liés. Jésus reproche ça à ses disciples. Pourquoi vous avez eu peur ? Pourquoi est-ce que vous avez peur ce matin ? Secoue ton frère, ta sœur à côté, gentiment, parce que là on est question de la peur, mais dis-lui pourquoi tu as peur au final ? On n'a pas le temps d'en discuter ce matin, mais si tu veux, on en discute quand tu veux. Pourquoi tu as peur ? Les disciples ont eu peur parce qu'à un moment donné, ils ont oublié que Jésus était avec eux dans le bateau. Nous n'aimons pas les tempêtes, n'est-ce pas ? Je pense que 100% d'entre nous ont vécu des tempêtes. J'en ai vécu aussi et j'en vivrai encore. Je parlais de l'église d'Angers, comme l'église de Limoges a vécu des tempêtes et elle en vivra certainement encore. Pourquoi ? Parce que nous sommes vulnérables, nous sommes dans notre humanité bien fragile et la tempête est aussi le plan de Dieu pour nous. Et la tempête est aussi nécessaire. Je dois dire un mot quand même sur le fait que des fois la tempête est là et que, je ne vais pas dire que Dieu n'a rien à voir avec la tempête parce que Dieu est au contrôle, il est souverain, il maîtrise tout. Mais des fois, des tempêtes qu'on vit sont simplement juste de notre faute. Okay ? Parce qu'on vit n'importe comment, parce qu'on fait de mauvais choix, parce qu'à un moment donné, on se dit « bon, je m'en fous un peu, je vais vivre ma vie comme je veux ». Et dans le « comme je veux », souvent, on sert des intérêts qui ne sont pas ceux de Dieu et on se retrouve nous-mêmes dans la tempête. On fait un choix irrésolu par rapport à un conjoint. On fait tout un tas de bêtises et puis la tempête arrive. Et c'est malheureusement de notre faute, mais pas tout le temps. Il arrive des tempêtes, ça peut être le cas dans ce texte-là, où les pauvres disciples, bah, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de prendre le bateau et ils ne se sont pas mis eux-mêmes dans la tempête. Et la tempête souffle et c'est le cas aussi des fois dans nos vies. La tempête souffle et on n'a rien fait de mal, si je peux dire comme ça. La tempête souffle et nous, on n'y est pour rien. On est juste en train de subir quelque chose. Dieu est souverain, il est un grand pédagogue. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu change aussi le mal en bien. Et que dans tous les cas, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Et tout ce que nous pouvons vivre, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même dans des choses, des situations négatives, et même dans des tempêtes dans lesquelles nous avons choisi même nous-mêmes d'aller d'une manière inconsciente, Dieu se glorifiera toujours, je le crois. Mais la tempête est nécessaire. Elle est nécessaire pourquoi ? Parce que j'ai remarqué, moi je suis jeune, contrairement à d'autres. Ah, l'avantage d'être plus âgé, c'est qu'on sait au moins qu'on peut atteindre ce stade-là. Quand on est jeune, on peut toujours espérer, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas ? Donc, mais en tout cas, je suis évidemment plus jeune que mon ami, collègue, mon frère Bernard. Et donc, je dis ça en toute humilité pour dire que j'ai moins d'expérience que lui. Mais malgré cela, j'ai vu dans mon expérience que lorsque tout va bien, souvent, on n'a pas besoin de Dieu. On croit, en tout cas. Et c'est souvent quand on est malade. C'est souvent quand la crise arrive, quand la tempête souffle, que là, on se rappelle qu'on est chrétien. Et là, bizarrement, on va à chaque réunion de prière. Bizarrement, on découvre qu'on a des frères et sœurs à qui on envoie des messages. Est-ce que tu peux prier pour moi ? Et si tu peux faire une chaîne de prière en plus, ça m'aiderait tellement. Parce que quand tout va bien, bah ouais, malheureusement, on a tendance à compter sur nos propres forces, sur nos habitudes, parce que tout va bien. Et je crois que le Seigneur est en train de parler à notre pays, où même si nous, les Français, on râle un peu, Je sais, tout le monde n'est pas d'origine de culture française ici. Hein. Je vois des couleurs un peu. Mais vous avez remarqué que nous, les Français, tout va bien chez nous, mais on est toujours en train de râler, hein, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas se fier à ça, c'est très impressionnant. Mais en fait, dans notre pays, jusqu'à pas si longtemps, tout allait bien quand même. C'est-à-dire qu'on se plaint, mais lorsque on se compare à d'autres, on peut se dire que quand même, on est privilégié, que le Seigneur a béni la France, etc., etc. Je le crois de tout mon cœur. Mais il faut avouer que depuis quelque temps, c'est compliqué pour tout un tas de raisons. Et je crois que Dieu utilise ça aussi pour parler au peuple français, insécuriser le peuple français, faire tomber la tempête sur le peuple français pour qu'il puisse se tourner vers Dieu. Je crois que dans les temps que nous allons vivre, nous allons voir nos églises se remplir. Des gens venir avec des questions, des gens à courir et dire bah, « je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi j'ai besoin de rencontrer Dieu ». Il faut que nous soyons prêts aussi à pouvoir accueillir ces gens-là. Dans la tempête, c'est là où on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. Et c'est dans la tempête que Dieu veut se révéler comme étant le Dieu qu'il est. Des fois, nous avons une notion de Dieu qui n'est pas juste d'une certaine manière. Des fois, l'image d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui ne s'occupe pas de nous, ou du gentil papa gâteau, ou du père fouettard, selon l'image, selon notre éducation, mais pas tellement selon l'image de Dieu qu'il est ou qu'il veut être dans notre vie. Dans la tempête est nécessaire pour que Dieu se révèle. Dans le texte que nous avons lu, les disciples étaient avec Jésus, mais à ce moment-là, pour qui est Jésus pour eux? Il n'est certainement pas Dieu. Il est quelqu'un qui a une bonne philosophie, il est quelqu'un qui a fait des miracles, il est quelqu'un de sympa. J'ai bien aimé l'expression de Bernard tout à l'heure, est-ce que vous voulez que Dieu ait la banane? Et je pense que Jésus était quelqu'un, si je reprends la citation, n'est-ce pas? Jésus était celui qui avait la banane régulièrement. Je suis persuadé que Jésus était saint, sans péché, on est bien d'accord avec ça, mais qu'il était accessible, il était aimant, il était aimé de ses disciples. Et je suis persuadé qu'autour de la table avec Jésus, il devait y avoir des bons moments de rigolade, des bonnes accolades. Et puis, vous voyez les uns et les autres, « Ah, ça va-t-il, toi? Je suis content de te voir. » Et puis, peut-être, il y avait des blagues et des choses comme ça, tout en respectant le fait qu'il était Dieu et qu'il était saint et qu'il n'y avait pas de péché. Ça, c'est évident. Mais je suis persuadé qu'il est loin du Jésus, des fois, qu'on nous représente dans les films, vous savez, comme ça. Avec la mèche, ou même ça souffle, ça ne bouge pas, vous voyez. Je pense qu'il était très sympa, très aimant, très accessible. C'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même. Mais peut-être que pour les disciples, Jésus n'était que ce personnage-là. Sympa, avec une bonne philosophie, et qui faisait des miracles. Et là, dans ce contexte-là, lorsqu'il se lève, lorsqu'il leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez eu peur ?» Et en posant cette question, il est en train de sous-entendre, vous n'avez pas réalisé en fait qui était vraiment avec vous dans le bateau. C'est-à-dire que vous êtes avec moi, mais vous ne me connaissez pas véritablement comme je suis. Et peut-être que des fois nous sommes à l'église, et peut-être même depuis des années, et Jésus et Dieu ne restent pour moi peut-être qu'une bonne philosophie, une bonne théologie, ou peut-être que l'église, là où Dieu règne, est juste un endroit où je me sens aimé, où je me sens accepté, ou peut-être même je vais me réaliser, mais c'est tout. Et que Dieu n'est pas Dieu dans ma vie. Et Jésus, en posant cette question, pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi avez-vous eu peur? Et peut-être qu'il attendait de la part des disciples, bah parce qu'on n'a pas réalisé qui tu étais, et qu'au final, même dans la tempête, tu pouvais avoir le dessus. Et pour les disciples, une fois que Jésus se lève, ça change considérablement les choses. Ils étaient de culture juive, et donc évidemment, ils connaissaient les psaumes. Ils avaient, même s'ils les connaissaient peut-être pas par cœur, mais ils étaient familiers de toute la liturgie, si je peux dire comme ça, et des psaumes qui étaient lus, qui étaient répétés. Et il y a un psaume qui, à ce moment-là, a dû revenir dans leur esprit et dans leur cœur, on le trouve, c'est le psaume 65, et on va le lire du premier verset au verset 8. Il y a quelque chose de caractéristique qu'on trouve dedans, qui me fait imaginer que les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus calmer la tempête, ils se sont dit « là, Jésus n'est pas juste ce Jésus sympa, il y a quelque chose de plus ». Ce psaume 65, verset 1. « Au chef des cœurs, un psaume de David, cantique, verset 2. « Notre calme attend à toi et la louange que nous t'offrons. Dieu en Sion, et nous nous accomplissons les vœux que nous t'avons faits. Toi qui écoutes nos prières, tous les humains viendront vers toi. Le poids des fautes pèse sur moi, il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison et la sainteté de ton palais. Dans la justice, tu nous réponds par des merveilles, ô Dieu sauveur. Espoir des hommes jusqu'aux confins de la terre et jusqu'aux îles lointaines. Il établit fermement par son pouvoir les montagnes et il se revêt de puissance. Il calme les bruits des mers et tout le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples. Ce psaume nous parle de Dieu. Comprenez le lien que j'essaie de faire ? C'est que les disciples qui à l'époque sont dans la barque et qui sont avec Jésus et qu'il est sympa avec eux et qui fait des miracles, au moment où Jésus se lève et qu'il calme la tempête, ils se disent finalement, ce Jésus, c'est vraiment pas n'importe qui. Et il est en train d'accomplir des choses qu'on attribue à Dieu dans les psaumes. Alors je reviens à nous. La tempête est nécessaire, désagréable. Elle nous malmène, elle nous chahute. Mais elle est nécessaire pour que Dieu puisse se révéler en nous, au travers de nous. Que Dieu ne soit plus simplement le Dieu de mon pasteur ou des anciens de l'église ou de ma copine ou de ma sœur ou de mon frère, mais qu'il devienne mon Dieu, pas ce philosophe, pas cette bonne moralité, pas cette bonne théologie, mais le Dieu qui calme le vent et la tempête. Dieu se révèle comme ça, cette manière-là, aux disciples, et cette tempête, ce passage-là, était juste nécessaire. La tempête aussi est nécessaire pour savoir ce que je crois vraiment du plan de Dieu pour moi. Les disciples sont là, apeurés, et la question, mais pourquoi avez-vous eu si peur ? Premièrement, parce qu'ils avaient oublié que Dieu était Dieu, ou ils ne savaient pas encore. Et puis, ils ont peur parce qu'ils ont peur de mourir. Il y en a qui ont peur de mourir ici dans la salle ? Non, ne levez pas la main. Même si on sait où nous allons, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident, le passage de la vie à la mort ou à la vie éternelle. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ne pas pouvoir vivre ce que, d'une certaine manière, Jésus leur avait promis. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait quelque chose de spécial sur leur vie, ces disciples ? Est-ce que Jésus ne leur avait pas dit « je vais vous utiliser de telle ou de telle manière » ? Est-ce qu'ils n'avaient pas cheminé ensemble ? Et la question de Jésus est légitime, mais pourquoi vous avez eu peur ? Si je vous promets quelque chose, si je vous confie quelque chose, pourquoi en douter et penser que vous allez mourir ? La tempête est nécessaire pour réaliser ce que nous croyons du plan de Dieu pour nos vies. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé un jour ?
Ouais, un à gauche.
Dieu nous parle de manière différente. Il nous parle d'un point de vue global. Il nous appelle, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Ça, c'est un commandement, c'est une parole de Dieu pour chacun de nous. Et puis Dieu nous parle aussi de manière particulière, individuelle. Il nous révèle, le cas échéant, des destinées qu'il a pour nous. Voici à quoi je t'appelle. Voilà ta destinée. Voilà de quelle manière je veux t'utiliser. Voici les particularités que j'ai placées en toi que j'aimerais utiliser. Si c'est le cas, si Dieu vous a parlé, où est-ce que vous en êtes avec ça ? Dans la tempête, c'est là que nous voyons ce que nous croyons vraiment. La tempête qui est là pour chahuter nos convictions, chahuter ce que nous croyons. Vous savez, moi je suis pasteur, j'aime le Seigneur, je me suis engagé à le servir, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'il est Dieu et qu'il est avec moi à chaque instant, qu'il est bon pour moi et que je suis son enfant. Et ça fait plusieurs années maintenant que je sers le Seigneur et que je lui ai donné ma vie, donné mon cœur. Mais il est arrivé un moment dans ma vie où la tempête a soufflé si fort que je remettais même en doute ce que le Seigneur avait fait pour moi. Où les angoisses étaient tellement fortes, tellement puissantes, que je me posais même la question si j'étais légitime de pouvoir m'approcher de Dieu. Toutes les voix d'accusation qui me disaient que j'étais nul, que j'étais moins que rien, mauvais à tout, etc., etc. J'espère pas vous surprendre, parce que je suis sûr que au moins la moitié de la salle a vécu la même chose. Ou à un moment donné, j'ai dû faire taire mes émotions, taire tout ce que je pouvais ressentir, qui m'accusait, qui m'accablait encore et encore, et décider de mettre ma foi en action, et de croire ce que disait la parole de Dieu de moi. La tempête est nécessaire pour réaliser ce que je crois vraiment, ou de quelle manière je le crois. Vous savez, c'est très facile le dimanche matin, lorsqu'on a un bon culte, un super prédicateur qui vient de Limoges, qui est bien coiffé. C'est toujours de bien de se faire du bien, de se flatter. Non, c'est pas toujours bien. Bref, on en discutera. Mais c'est facile, dans un contexte favorable, lorsqu'on a été encouragé, lorsqu'on est bien, on a été aimé, on a loué le Seigneur. C'est facile de croire ce que dit la parole de Dieu. C'est facile de ressortir zélé quand nos émotions sont attaquées. Mais quand on est dans nos émotions, on a envie de pleurer, on se sent mal. Qu'est-ce que tu crois véritablement ? Qu'est-ce que croyaient véritablement les disciples dans la tempête ? Quand une vague soufflait, et puis peut-être que la prochaine, c'est la dernière, qui va nous faire basculer. Dans ces moments-là, peut-être que des fois, on oublie toutes les promesses de Dieu. Lorsque j'étais jeune, le Seigneur m'avait parlé d'une manière particulière. J'ai toujours imaginé que Dieu existait, mais que s'il existait, ce n'était pas l'Église. Et je vous raconterai ma vie peut-être plus tard un jour. Et à un moment donné, Dieu s'est vraiment révélé à moi. Il m'a foudroyé de sa présence et il m'a parlé. Et moi, avant, j'étais un... Je ne suis pas meilleur aujourd'hui, mais Dieu a soufflé sur les braises, a utilisé ce qui était faible en moi pour pouvoir m'utiliser aujourd'hui. Je n'avais pas de compétences particulières, etc. Et lorsque Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit qu'il m'appelait à annoncer sa parole, etc. Et moi, à l'époque, je dis, t'es sûr, t'as pas dû te tromper là ? Et j'étais jeune. Mais quelque part, c'est quelque chose qui correspondait à des choses qu'il y avait dans mon cœur. Et je crois que lorsque Dieu parle, lorsqu'il révèle, il appuie quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui sort nulle part. Ça vient confirmer quelque chose qui est peut-être inexprimé, inexprimable dans nos cœurs, mais ça confirme. C'était le cas pour moi. Mais ça me paraissait fou, complètement fou, parce que j'étais incapable de parler, je n'avais pas fait d'études, etc., etc. Et puis j'ai décidé du coup de me former, de faire tout un tas de choses pour... Et puis comme la vie humaine est comme ça et qu'on est fragile et puis tantôt on est au taquet et tantôt et j'ai vécu des choses compliquées, à un moment donné dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai un peu tout laissé tomber et puis j'ai vécu n'importe comment. Et puis le Seigneur a fait grâce, il m'a relevé, il m'a pardonné et puis je gardais quelque chose dans mon cœur. Je me disais mais au final peut-être que ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu m'avait dit, les plans qu'il avait pour moi, parce que j'ai mal agi, parce que j'ai fait n'importe quoi, et ben c'est terminé. C'est la sanction du Seigneur. J'imaginais les choses comme ça. Que Dieu allait me châtier en disant, bah ouais, moi je te pardonne, il n'y a pas de souci, mais tu vas voir. Tu vois, je t'avais fait confiance une fois. Ouais, bah maintenant c'est terminé, je vois qu'on ne peut pas te faire confiance. Voyez, parce que j'imaginais l'espace d'un instant que Dieu était un homme qui fonctionnait comme moi. Et puis je me rappelle un jour, du coup, moi je fais du sport. Et puis je fais du vélo, et puis j'ai fait de la boxe, et j'en fais toujours un petit peu. Et puis le prédicateur qui était là avait monté son message autour de l'analogie du boxeur qui se prenait des coups et qui était toujours là. Et puis à la fin, il fait un appel. Et tous ceux qui veulent rentrer dans le plan de Dieu et qui, malgré les coups, sont toujours là. Et moi, évidemment, ça me parlait, j'étais jeune, et j'y suis allé. Et puis voilà que ce pasteur reçoit quelque chose pour moi. Et il me dit, tu sais, ce que Dieu t'a promis, c'est toujours d'actualité. Tu t'es relevé, tu as pris des coups, mais c'est toujours d'actualité. Il ne savait pas ce que j'avais pu vivre, il ne savait pas ce qu'il y avait dans mon cœur. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est même dans la tempête, même dans les bouleversements, même dans tout ce qu'on peut traverser, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il promet, il le promet. Et si Dieu t'a parlé, ce n'est pas le moment d'en douter, et encore moins dans la tempête. Ce que Dieu t'a dit, accroche-toi-y encore et encore et encore. La tempête sert de révélant, de révélateur sur ce que tu crois, tu choisis de croire dans ta vie. J'aimerais juste faire une petite parenthèse en disant que la croyance, la foi, n'a rien à voir avec les émotions ou avec ce que je ressens. Elle a juste à voir avec ce que je choisis de croire, point barre. La parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ma foi, je peux la poser sur ce que Dieu m'a dit, sur sa parole, sur les paroles logos, comme on dit, ou les paroles rhéma qu'il m'a dit. Et dans les moments de la tempête, plus que jamais, je dois m'accrocher à ce que Dieu m'a promis. Dans les moments de tempête, ce qui est gênant, nous avons tous vécu ça, c'est que nous croyons que Dieu est là, il est avec nous dans la barque, mais il reste silencieux. Et on a beau crier, on a beau avoir peur, et moi des fois, dans mes tempêtes, dans mes souffrances, c'est comme si je disais à Dieu, mais tu vois bien que je suis mal. En gros, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas intervenir. Et souvent, ce qui est lourd à porter dans nos moments de tempête, c'est le silence de Dieu. L'histoire nous dit qu'ils ont peur. Combien de temps ça a duré, on ne sait pas trop. Mais on imagine l'agitation, on imagine la panique, les peurs paniques qui sont là. Et puis, ils sont peut-être en train de se dire, mais nous, on panique et lui, il dort. Il ne voit pas qu'on est en train de Puis je sais pas si vous avez déjà pris le bateau, mais quand on est ballotté, j'imagine que la barque, c'est pas un grand paquebot, voyez-vous, ça devait secouer dans tous les sens. Et il dort. Et souvent, ce qui est pénible pour nous dans les tempêtes, c'est le silence de Dieu. Parce qu'on l'interprète comme Dieu nous a oubliés. Ou Dieu se moque de moi. Ou j'ai tellement péché, je suis tellement loin de Dieu qu'il ne me parlera plus. La question c'est, est-ce que Dieu ne nous parle plus? Ou est-ce que c'est nous qui sommes incapables de pouvoir l'écouter? Pourquoi? Parce que notre attention est fixée ailleurs, notamment sur nos peurs. Et lorsque nous avons peur, lorsque la tempête souffle, je crois que ce n'est pas que Dieu ne nous parle plus, c'est que nous sommes incapables de l'écouter. Et nous sommes dans une société qui malheureusement a du mal à écouter Dieu, et des fois même aussi dans nos églises. Parce qu'on est plein de choses qui nous distraient, les réseaux sociaux, la télé. Je m'adresse peut-être plus aux jeunes qui sont à ma gauche, et puis un peu parsemés là. Est-ce que vous arrivez à passer du temps sans consulter vos téléphones, rentrant à la maison sans allumer la télé, sans mettre de la musique, et juste rester dans le calme? Difficile aujourd'hui. Et c'est à ça que je reconnais que je suis encore un peu jeune. Parce que des fois, c'est aussi compliqué pour moi de faire silence pour pouvoir écouter. Vous avez ce texte où à un moment donné, Élie, il pète un câble, il est en dépression, il a corrigé tous les prophètes de Baal. Et puis, est-ce qu'il aurait dû le faire? On ne sait pas. Mais en tout cas, juste après ce moment glorieux, d'une certaine manière, la parole de Dieu nous dit qu'il est mal, il est en dépression, il a envie de mourir. Prends-moi Seigneur, fais-moi mourir, je ne suis, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis il va se mettre dans une caverne pour que Dieu lui parle. Il va se mettre à l'écart pour que Dieu lui parle. Et puis le texte dit qu'il y a eu un vent, un tremblement, etc. Quelque chose qui faisait du bruit. Mais que Dieu n'était pas dans ces éléments. Et que Dieu commence à lui parler dans un léger brise, dans un léger murmure. Moi j'ai remarqué dans ma vie que même dans la tempête, dans toutes ces choses qui s'agitaient, j'aurais aimé que Dieu crie. Et qu'il m'arrache ou je ne sais quoi, et que souvent il m'a parlé lorsque j'ai moi-même calmé la tempête, d'une certaine manière, en choisissant d'écouter une autre voix, douce, pleine d'amour, une voix qui nécessitait pour être entendue que je fasse le calme dans mon cœur, ou dit autrement que j'écoute d'autres voix que celles qui m'angoissaient, celles qui me faisaient peur, celles qui me faisaient poser des questions pour l'avenir, sur ma légitimité, etc., etc. Mais je sais que vous avez une liste qui est aussi importante que la mienne. Et c'est à ces moments-là où Dieu a pu me parler. Souvent, ce qui nous trouble dans les tempêtes, c'est la tempête, effectivement, mais c'est le silence de Dieu. Et ce silence de Dieu est aussi nécessaire. Il y a un temps où Dieu décide d'agir, le temps où il décide de se lever, et ce temps n'est pas forcément le nôtre. Il y a un temps d'accomplissement nécessaire. Passer par le trouble, passer par la pression de ma foi. Avant l'heure, comme on dit, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais à un moment donné, Jésus décide de se lever et les choses changent. J'ai bientôt terminé mon message pour vous dire que Jésus se lève et effectivement les choses changent dans nos vies. Et souvent ce que nous avons besoin, ce n'est pas de solutions humaines. Nous sommes tous comme ça, je disais, la première émotion peut-être que nous pouvons vivre lorsque la tempête arrive, c'est la peur. Et puis peut-être que c'est plus propre aux hommes, quoique je ne sais pas, parce que je ne suis pas une femme, mais les femmes vous me direz. Mais les hommes cherchent toujours à trouver des solutions. Comment est-ce que je vais sortir de cette tempête par mes propres forces? Alors voilà, 1 plus 1 fait 2, 2 plus 2. Alors si je fais ci, si je fais ça, peut-être que je vais trouver une solution. Et on essaie de trouver des solutions par nous-mêmes. Alors que Dieu veut répondre lui-même à nos problèmes. Dieu veut répondre lui-même à nos soucis et intervenir dans nos tempêtes. Et Dieu se lève, et une fois que les choses se mettent en place, une fois que ce Dieu se lève, les choses changent dans nos vies. Et nous avons des fois essayer de faire changer les choses par nous-mêmes avec nos solutions et bizarrement il n'y a rien qui marche. On a l'impression de regarder nos vies et on se dit tiens, c'est exactement la même chose que le gouvernement français. Ils essaient de mettre des choses en place. À partir de maintenant on va faire des restrictions budgétaires, vous allez voir que ce sera comme il y a 50 ans, comme voilà, que ça dure. Et on prend des bonnes résolutions aussi à la nouvelle année, c'est bientôt, c'est pour ça que je vous en parle. À partir de maintenant, je vais faire du sport tous les matins, je vais aller courir. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas encore trouvé les baskets. Hein, mais... Toutes ces bonnes résolutions qu'on prend en disant « à partir de maintenant, je vais » et ça ne fonctionne pas. Et la seule chose dont nous avons besoin, c'est que Jésus se lève. Et pour qu'il puisse se lever, d'une certaine manière, il faut qu'on abandonne tout ce que nous pourrions éventuellement faire. C'est ce que les disciples, à un moment donné, réalisent. Ils ont peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire face aux éléments ? Rien. On ne peut absolument rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans nos vies. Il n'y a que Jésus qui peut se lever. Alors on va le réveiller, même si on n'a pas encore saisi qui il était vraiment. Mais Jésus, aide-nous. Et la seule solution, des fois, que nous avons besoin dans nos vies, c'est que Jésus prenne la place, qu'il puisse se lever. Et pour ça, il faut lui laisser la place qui lui est due. Dernier point, en vous disant que il y a des tempêtes, des fois, que nous traversons, qui sont liées à ce que nous avons semé dans nos vies. Des fois, comme on dit, nous avons tendu le bâton pour nous faire battre. Nous avons semé nous-mêmes nos difficultés et on récolte la tempête, n'est-ce pas ? Il arrive aussi des fois où des tempêtes, comme je disais, sont simplement des moyens que Dieu utilise pour se révéler. Et pourquoi elles arrivent ? Pour nous éprouver, pour voir ce qu'il y a dans nos cœurs par rapport à ce que nous croyons de l'œuvre de Dieu, pour que Dieu puisse se révéler. Et ça, c'est juste le plan de Dieu. Dieu reste toujours souverain. Et puis il y a des fois des tempêtes qu'on traverse qui sont juste des tempêtes pour nous arrêter. Nous croyons en Dieu, nous croyons que Dieu est souverain, il est tout puissant, il a anéanti, il a renversé, il a battu toutes les puissances de ténèbres, toutes les dominations, nous le croyons aussi. Mais nous savons aussi que le malin est là et qu'il essaye de nous arrêter. Je ne suis pas partisan de ceux qui voient des démons partout ou qui, à chaque fois qu'ils ont une angine, imaginent qu'il y a un démon derrière, ou que parce que je m'endors pendant le culte, c'est parce qu'il y a un esprit de sommeil qui tombe sur moi. Ça arrive des fois, c'est pour ça que je précise. Et des fois, c'est juste qu'on a besoin de se coucher plus tôt pour aller au culte, d'ailleurs. Mais je ferme la parenthèse. Mais je sais malgré tout qu'il y a des puissances qui sont là pour nous arrêter. Et la question que j'aimerais nous poser si nous traversons des tempêtes ce matin, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ta tempête ? Si c'est toi qui as semé des graines pour récolter la tempête, il est toujours temps de demander pardon au Seigneur, de changer d'attitude et de courir auprès de lui et de lui dire « Seigneur, lève-toi dans ma vie ». Si c'est un temps de brisement peut-être, un temps nécessaire pour toi que le Seigneur a décidé d'envoyer, eh bien laisse-toi faire. Laisse-toi faire et puis dis au Seigneur « Ok, que puisse vivre vraiment tout ce que j'ai besoin de vivre pendant cette tempête pour que tu sois glorifié, pour que je puisse te rencontrer, mais fais ton œuvre ». Et puis, comme je disais, peut-être que des fois, il y a des tempêtes dans nos vies où nous devons discerner qu'il y a un plan machiavélique, un plan malsain, malhonnête de la part du diable qui est là juste pour nous arrêter. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Nous connaissons ce texte et nous le lisons en français parce qu'il a été traduit en français. Et puis, il y a quelques notions qui nous manquent lorsqu'on traduit en français. Vous savez que la Bible est écrite pour l'Ancien Testament en hébreu, pour le Nouveau Testament en grec en majorité. Et qu'on perd des nuances dans notre traduction. Et donc voici Jésus qui dort et à un moment donné il se lève et puis il menace le vent, il menace la tempête. Et nous on se dit ok, ouais, il n'y a pas de problème, il est Dieu, il le fait. Mais dans les expressions qu'il emploie, notamment en grec, il est question du verbe phimo. Pour ceux qui ne connaissent pas le grec encore, hein, ils vont entendre des cours. Non, comme on dit, la confiture, c'est de la connaissance, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. C'est pour ça que je sers le mot phimo, mais j'ai regardé dans un bouquin. Et ce mot phimo dit en fait menacer, museler. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mot qu'emploie Jésus précisément, ben c'est bizarre qu'il soit employé pour parler à la tempête et au vent. Et on remarque en lisant l'évangile, notamment dans l'évangile de Marc, toujours le même, lorsqu'il y a un homme qui est sous influence démoniaque qui s'approche lorsqu'ils sont à la synagogue, et puis c'est les démons qui s'expriment au travers de lui, vous trouvez ça dans Marc chapitre 1 verset 23-26, voici Jésus qui prend autorité et qui chasse les démons qui sont en lui, et bizarrement, il emploie la même expression, phimo. Ce qui nous font comprendre, c'est une hypothèse, une supposition, mais qui semble très probable, que Jésus, au travers de la tempête qu'ils sont en train de traverser, discerne que derrière cela, et des puissances de ténèbres qui sont là juste pour l'arrêter. Et lorsqu'il prend position, il dit maintenant, vous vous taisez, vous la fermez et vous nous laissez tranquilles et la tempête se calme. Des fois dans nos vies, il y a des situations qu'on vit qui sont des problèmes spirituels. Et je dis bien des fois, parce que nous, des fois évangéliques, on voit les démons partout. Hein. Mais il faut se calmer. On a des affrontements de puissance, mais pas tout le temps. Mais des fois, oui. Il faut que nous puissions discerner ce qui se passe. Et une bonne nouvelle, c'est que dans ce contexte-là, ils ont besoin que Jésus se lève. Et c'est lui qui prend autorité et qui chasse les démons. Nous sommes, nous, enfants de Dieu, rachetés à un très grand prix. Notre identité a changé. Réjouissez-vous, alléluia. Nous ne sommes plus n'importe qui, et l'autorité pour parler aux démons nous est aussi conférée. Et nous pouvons aussi, le cas échéant, nous lever, si Dieu nous montre qu'il y a quelque chose, et dire maintenant la tempête là, maintenant ce que le diable essaie de faire, maintenant je stoppe tout ça au nom de Jésus. Pas à cause de moi, mais parce que je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Dieu m'a donné son autorité et je me lève. Je crois que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui vivent des tracas, qui vivent des trempettes, des oppressions, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils pouvaient se lever et interdire à l'ennemi de venir les agresser. Parce que je sais que nous sommes en Europe, nous sommes en France, nous sommes dans des régions centre. Tu parles de Limoges et Coexis, c'est quoi centre? Ouais, c'est pas loin du centre, quoi. Mais moi, je dis que c'est la France profonde, quoi. Tout cet endroit-là, par Paris et le sud, c'est... Et on a des croyances, on est dans un contexte où toutes ces choses-là spirituelles, on dit que ça n'existe pas, ou que, ouais, il n'y en a pas tant que ça, y compris même dans nos églises. Et puis on a des fois des frères et sœurs qui viennent des Antilles ou d'Afrique ou d'autres contrées du monde, qui eux savent très bien qu'il y a un monde spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que ça n'existe pas que ça n'existe pas. Et puis à l'inverse, il y a des excès aussi, où dès que j'ai une angine ou je ne sais quoi, il y a un démon. Non, il faut un équilibre. Mais il arrive des fois que dans nos tempêtes, il y a des puissances démoniaques qui sont là juste pour nous arrêter. Donne ce témoignage qui n'est pas un témoignage que j'ai vécu personnellement, mais avec l'église de Limoges, nous travaillons avec l'église de Mulhouse, que vous devez certainement connaître, et puis avec Samuel, Benjamin, Peter Schmid, dont vous avez peut-être entendu le témoignage, qui à un moment donné vivait des complications dans sa vie, dans sa santé mentale, et puis le témoignage a été donné publiquement, donc je peux en parler. Et puis Samuel nous a souvent exhortés en nous rappelant ce paramètre-là, c'est-à-dire qu'ils ont subi pendant tout un temps la maladie de leur fils, jusqu'à un moment donné où ils ont réalisé, et pourtant c'est Samuel qui est pour moi un père dans la foi, beaucoup d'expérience, et à un moment donné, lui n'avait pas vu que c'était quelque chose de spirituel et de démoniaque, jusqu'au moment où ils ont réalisé, ils ont chassé les puissances, puis quelques jours après, c'était terminé, Benjamin avait retrouvé sa cohérence et son esprit. Tout ça pour vous dire que des fois, nous sommes malmenés par la tempête, nous paniquons, nous avons peur, alors qu'il suffirait peut-être juste de se lever et dire « ça, je n'autorise pas ça dans ma vie, au nom de Jésus ». Pas fort de ce que je suis, on n'est pas là pour se la raconter parce qu'on est méga spirituel, tout n'est que grâce, et si nous pouvons le faire, c'est parce que Jésus est mort à la croix, parce que lui a été victorieux, nous pouvons aussi être victorieux avec lui. Veillons aux prises qu'il y a aussi dans nos vies, parce que nous pouvons ordonner aux démons, ordonner au diable, mais si on est en Jésus. Le texte de Romains nous dit « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Soyons sûrs d'être en Jésus-Christ, soyons sûrs d'être sous son sang précieux, soyons sûrs d'être dans la volonté du Seigneur, en tout cas par rapport à ce que nous vivons. Parce que tout ce qui n'est pas en règle dans nos vies, c'est souvent là que le diable vient exploiter et vient déchaîner la tempête. Mais il arrive des fois, si Dieu nous montre dans nos moments de tempête, lorsque nous prions et que ça devient une évidence et une conviction, levons-nous, n'ayons pas peur de la tempête quelle qu'elle soit, autant fût-elle impressionnante, levons-nous parce que Dieu est avec nous dans le bateau et il nous donne la capacité de pouvoir vivre ça. J'ai terminé mon message, j'aimerais juste proposer de prendre un temps de prière. Si vous pouvez baisser vos têtes, arrêter de me regarder et de regarder au Seigneur. Peut-être demander à un des musiciens de venir juste prendre un temps d'introspection. Moi, je ne vous connais pas, c'est la liberté que j'ai. Je ne sais pas vos vies, je ne connais absolument rien de vous, je ne sais pas ce que vous pouvez traverser. Mais peut-être que parmi nous, ce matin, certains sont en train de traverser les tempêtes. Et la peur est tellement présente, tellement costaud, si je peux dire, tellement forte, que tu te mets même à dire, mais est-ce que Dieu est toujours avec moi ? Est-ce que Dieu est avec moi dans cette barque de ma vie ? Je suis tellement ébranlé à droite, à gauche, et il me semble que j'ai plus qu'à attendre une seule vague pour qu'il en soit fini de moi. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, mais est-ce que Dieu, tu pourrais pas tourner ton regard sur moi ? Est-ce que tu pourrais pas au moins te lever ? Est-ce que tu vois pas que je souffre ? Et puis toutes les questions, toutes les réflexions que nous sommes posées ce matin. Si tu es là, ce matin, dans cette salle, et tu te dis, moi j'aimerais vraiment que Dieu puisse se lever dans ma barque, qu'il puisse lui-même aussi calmer les éléments. Pose-toi la question s'il est en mesure de pouvoir le faire. Pose-toi la question si tu lui as laissé la place nécessaire pour pouvoir se lever dans ta vie. Est-ce que c'est lui qui peut tenir la barre du bateau? Est-ce que c'est lui qui peut se lever dans le bateau? Ou alors, est-ce que c'est toi qui tiens toujours les rênes? C'est toi qui tiens toujours la barre du bateau? Ce matin, tu es là et je te dis, j'aimerais tellement que les choses changent. J'aimerais tellement que ça puisse m'arriver. J'aimerais tellement que Dieu puisse se lever. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. C'est une certitude. Et qu'il attend juste que tu lui laisses la place. Ce n'est pas un concours de circonstances, c'est une question de choix. Ce matin, si tu es là, si tu es dans la tempête, peu importe la tempête, peu importe la longueur, mais si tu es là et que tu veux choisir de dire, Jésus, lève-toi. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Je te demande pardon pour mes peurs qui m'éloignent de toi, qui m'enferment, qui m'enterrent encore et encore. Je te demande pardon et Père, je te demande de te lever dans ma barque. Je veux te laisser toute la place. Que tu puisses me venir en aide. Si il y a des frères, des sœurs ce matin qui sont dans cette posture, dans cet état et qui ont besoin que Dieu se lève dans leur barque, j'aimerais juste vous demander peut-être rapidement de vous lever à votre place, juste pour manifester à votre âme, à vous-même, dire aujourd'hui je me suis levé pour que les choses changent. Je me suis levé pour que Dieu me voie, même si rien ne lui est caché. Mais je me suis levé aussi pour que les principautés, tout ce qui est autour de moi, puissent voir que je me suis levé. Tel dimanche, j'ai décidé de demander à Jésus de se lever dans mon bateau. J'ai décidé qu'il puisse prendre le contrôle de ma vie. Père éternel, merci de ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que au travers de la tempête, tu nous émondes, tu nous encourages à persévérer. Tu places en nous tout ce qui est nécessaire pour continuer la route. Et Père, ce matin, tu vois tous mes amis, tous mes frères et sœurs qui se sont levés, Père. Étends ta main sur chacun d'eux. Tu connais leur tempête, tu connais les chemins qu'ils traversent, les doutes, les peurs, les angoisses, et tout ce qui, jusqu'à présent, les ont fait trembler. Et ils ont empêché d'avancer plus loin. Tu vois, cette décision, ce choix qu'ils font ce matin de dire, Père, Jésus, Dieu Tout-Puissant, celui qui fait des miracles, celui qui calme la tempête, lève-toi dans ma vie ce matin. Dieu, je prie que tu puisses te lever dans chacune de leurs vies ce matin. Je prie que tu puisses te lever et que tu puisses faire taire la tempête, faire taire les vents, apaiser les vagues et que tu puisses les mener jusqu'à bon port. Tant pour leur vie familiale, leurs enfants, leur couple, leur travail et toutes les barques de leur vie, Père. Interviens dans ta souveraineté, interviens selon ta volonté. Et je prie pour tous ceux qui sont liés aussi d'une manière ou d'une autre. Père, tu as dit que tu nous donnerais un discernement aussi. Donne-leur le discernement pour voir ce qui se joue derrière les tempêtes. Rappelle-leur qu'ils sont en toi. Rappelle-leur leur identité. Rappelle-leur l'autorité qu'ils ont aussi en ton nom, Père. Je te confie chacune de ces personnes ce matin. Mène-les au large, mène-les à bon port. Et que l'angoisse, la peur disparaissent en ton nom, Jésus. Je te confie, Père, toute cette communauté. Je te confie chacun de nous. Conduis-nous dans tout ce que tu as préparé. Conduis-nous dans le meilleur. Te louons, Seigneur, pour cette Église qui a été ébranlée par les vagues, la tempête, mais qui est toujours là. Père, merci pour le plan glorieux que tu as pour cette Église. Merci parce que tu as choisi de te lever, tu as choisi de renverser, d'anéantir la tempête, et que tu marches toujours dans le bateau, Père. Que la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. Amen.